7 milliards de voisins avec Emmanuel Bastide pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue, 7 milliards de voisins et de voisines. C'est le rendez-vous des tchatcheuses aujourd'hui. Comme chaque mois, je reçois trois femmes journalistes de trois continents pour commenter l'actualité de leur choix. Enfin, trois femmes, si elles sont toutes dans le studio, ce qui n'est pas le cas pour le moment. Autour de la table, en principe, nous devrions avoir trois pipelettes de haut vol. Veju Naravan, toujours coincée dans les embouteillages. Paola Martinez, journaliste chilienne. Hola, Paola.
Hola.
Comment
Emmanuel.
Ça va?
Muy bien, muchas gracias.
Ana Navarro Pedro, bom dia, Ana.
Ah. Bon dia.
Journaliste portugaise pour l'hebdomadaire Visao. Et bien sûr, je vous rappelle les voisines que si vous êtes sur le continent africain ou ailleurs d'ailleurs, où que vous soyez, l'antenne vous est ouverte. Si vous souhaitez nous appeler dès maintenant pour nous faire part d'un coup de gueule ou d'un coup de cœur, vous parlez en votre nom, je vous le rappelle, et non pas au nom de votre média. Ce qui donne une grande liberté dans ce studio, n'est-ce pas, mesdames?
Oui,
33 1 84 22 71 71. Je vous redonne le numéro de téléphone, 33 1 84 22 71 71. Si vous souhaitez, mesdames, vous joindre au club des tchatcheuses. En fin d'émission, nous entendrons le témoignage d'une ouvrière cambodgienne de passage à Paris. Elle coud 12 heures par jour, 1500 braguettes sur des jeans que vous portez toutes et tous, ou presque. C'est le collectif Éthique sur l'étiquette qui a organisé sa visite pour sensibiliser les consommateurs aux conditions de travail dans les pays à faible coût de main-d'œuvre, comme on dit pudiquement. Le rendez-vous des tchatcheuses est parfois des langues de vipère. Pas de doute, vous êtes bien chez 7 milliards de voisins.
Tchatcher, c'est parler avec plaisir, aimer parler, y prendre du plaisir.
Les tchatcheuses, elles ont du caractère.
Ils parlent beaucoup de choses.
To chat, ça veut dire causer, sans contrainte.
Elles décident pour elles-mêmes, elles sont en bande.
C'est le plaisir de dire ce qui vous passe par la tête.
Ça parle.
Dire tout ça, ça fait du bien.
Les tchatcheuses sont énervées.
Vous préférez, les filles, parler de Malala ou de Dilma Rousseff en ouverture?
Les deux.
Vous avez le choix.
Les deux.
C'est pas tout à fait le même genre de profil. Alors, Malala, puisqu'on revient sur l'actualité des dernières semaines, jeune pakistanaise, prix Nobel de la paix. Elle était déjà candidate l'année dernière. Et là, c'était un peu la surprise. On ne l'attendait plus.
On ne l'attendait plus par ce jeune âge, je pense. Mais les jours où j'ai appris la nouvelle, c'était vraiment, j'avais la chair des poules. J'étais vraiment très, très émue pour elle, pour son combat. Et je ne cesse pas
de parler. Les combats des filles à l'école.
Les combats des filles
pays,
à l'école.
Dans d'ailleurs, dans
exactement,
tous les pays où les filles sont
menacées.
Cette
défense aux droits fondamentaux des les droits à l'éducation. Et c'est une chose qu'on oublie parfois en Occident, effectivement, cette manque d'éducation qui est un peu partout. En Amérique latine, d'ailleurs, il y a des zones très, très reculées, très, très loin, lointaines des villes où il n'y a pas du tout d'accès à l'éducation. Donc, je pense que Malala, c'est le triomphe, pas seulement de son pays, du Pakistan et sa région, sinon c'est un triomphe qui porte, en fait, un souhait. Il y a un vœu pour toutes les filles de la planète.
Anna,
c'est la porte pour l'émancipation des femmes, pour une vraie émancipation de l'humanité aussi. Et au moment où on veut que les femmes ne n'étudient pas, où on voit des jeunes nigériennes qui sont kidnappées par des mouvements fondamentalistes, soi-disant fondamentalistes, des bandits en fait, qui sont vendus en esclaves aux dernières nouvelles. Et quand on entend qu'elles auraient été kidnappées pour qu'on empêche en réalité les parents d'envoyer des filles à l'école, eh bien ce prix Nobel, il était absolument nécessaire. Et moi j'admire cette fille, je la trouve extraordinaire, parce que quand même dans un pays, il faut bien dire, le Pakistan,
c'est pas facile.
Voilà, on ne va pas dire que l'éducation des filles est la priorité dans les esprits des politiciens et même des élites du pays. Oui, mais j'admire ses parents aussi, et son père, qui l'appuie dans son combat.
Il est très encouragé aussi en même temps.
Père enseignant, mère analphabète, qui depuis d'ailleurs a appris à lire. Ceci dit, en même temps, le prix Nobel de la paix décerné à Malala, c'est la consécration d'une héroïne des médias et des réseaux sociaux depuis déjà plusieurs années. Ça témoigne pas d'une grande audace non plus, diplomatiquement parlant.
Je pense pas que ce soit
de la part du prix Nobel.
Oui.
Ah.
Je veux dire, le fait d'attribuer ce prix Nobel, c'est pas la même chose que quand on attribue le prix Nobel à une avocate iranienne qui s'insurge contre la dictature.
Non, je suis pas du tout d'accord avec ça, parce que c'est vrai, c'est les triomphes des réseaux sociaux, de tous la portée médiatique qu'il y a eu autour d'elle, mais en même temps, elle a pris aussi par sa vie. Il faut pas oublier qu'elle a été victime d'un attentat, qu'elle a
sa vie. vie est en danger.
Elle est encore en danger sa vie à cause de ça.
Et en plus, elle le sera encore plus après l'attribution de ce prix Nobel.
Exactement, elle est plus exposée encore et elle continue à dire haut et fort.
Alors par contre, là, oui, je crois que parfois, quand on donne le prix Nobel de la paix à Barack Obama, alors qu'il enclenche une guerre, ou qu'on donne le prix de la paix à Médecins sans frontières,
j'ai juste un rappel historique. On donne le prix à Henry Kissinger en 1973, en même temps qu'il est en train de financer les coups d'État au Chili. Donc voilà. Aujourd'hui, je pense que le prix Nobel, effectivement, a fait beaucoup de progrès.
Henry Kissinger. Bon, Ana Navarro-Pedro, je voulais vous demander ensuite que vous inspire la réélection de la présidente brésilienne Dilma Rousseff, puisque vous m'avez dit je veux qu'on parle de Dilma. Oui. Vous avez 15 secondes pour réfléchir à la question.
Hoje estou muito mais forte, mais serena e mais madura para a tarefa que vocês me delegaram. Brasil, mais uma vez, esta filha tua não fugirá da luta.
Allez, petite Brésil, traduction. Une fois de plus, cette ta fille voilà. Ne fuira pas la lutte.
Ta fille que je suis ne se détournera pas du combat. Voilà, ça c'est du discours d'Dilma Rousseff. Alors, réponse à la question.
Alors, cette élection pour moi est parce que le Brésil, donc on parle portugais, donc le Brésil était une ancienne colonie portugaise et on ne sait plus si aujourd'hui le Portugal n'est pas une colonie du Brésil quelque part, au moins culturellement. donc, nous sommes extrêmement proches et nous suivons ces élections et cette actualité politique de très près. Et pour la première fois, on a une élection. Oui, c'est très clairement une question de classe. Mais dans cette lutte de classe dont a parlé le milliardaire américain Warren Buffett, qui disait « Oubliez tout le reste, aujourd'hui la guerre, c'est une guerre entre les riches et les pauvres. Et ce sont les riches qui sont en train de la gagner. » Et donc, au Brésil, le résultat du vote a été vu, perçu très justement comme les plus pauvres, les moins favorisés de la population qui ont voté pour Dilma Rousseff et les plus riches et les classes moyennes hautes qui ont voté pour son adversaire Aécio Neves. Mmh. Pour la première fois,
ça s'est joué à peu de choses, hein, quand même. 38% des voix, jamais un président
oui,
n'a obtenu
mais
aussi
y a
peu
de
voix.
3 400 000, c'est
oui,
pas
oui,
peu de choses.
Non, mais d'accord. Mais en
La différence, c'est 3 400 000. C'est pas rien. Le pourcentage après ensuite, on a eu d'autres élections aux États-Unis ou en France qui sont jouées à si peu aussi. Mais ça veut dire aussi que la classe moyenne augmente au Brésil. Et donc, quelle chance au fusil d'épaule. Peut-être, ça, c'était une des analyses faites sur le continent en souriant. Mais c'est pour la première fois vraiment une revanche une question de classe et une question de privilège
alors,
de classe.
Vous n'êtes pas déçu par le mandat de Dilma Rousseff, notamment par rapport à la fronde de 2013. Qu'est-ce qu'elle a fait finalement pour la santé publique, pour l'éducation, pour les transports?
Je n'appuie ni pour ni contre. Je constate quelque chose.
Ah bah vous êtes là pour donner votre point de vue personnel.
Bien sûr que son mandat ne correspond pas aux promesses qu'elle aurait pu faire, mais bon, qu'elle a pu faire au début. Mais ce qui est très intéressant, c'est que cette analyse que je viens de faire et qui a été faite dans le continent a été renforcée dans les jours qui ont suivi son élection.
Au Brésil, il faut le dire.
Au Brésil.
C'est pas le continent latino-américain.
D'accord. Voilà. Au Brésil, mais je pense que la presse...
Il y a d'autres pays qui l'accompagnent.
Bon. non, mais c'est pas cela. Je veux dire, je pense que dans la presse latino-américaine, cette analyse a été faite.
Oui, mais justement, c'est ça que je veux rebondir sur ce que tu disais tout à l'heure avant.
D'accord.
C'est que la question de pauvres riches, ça existe déjà depuis 1990 dans toutes les élections latino-américaines. Hein? Parce que, tout le monde le sait, peut-être pas tout le monde, mais je rappelle, il y a eu des dictatures pendant des longues années partout, au Brésil, en Argentine, au Chili. Et ces dictatures-là, ils ont imposé un système ultra-libéral qui, effectivement, a fait des dégâts, mais considérables de la société. Hein, la façon de voir l'éducation, la santé, tout est payant, etc. Donc, aujourd'hui, je l'ai dit pour le cas chilien et argentin, par exemple, qu'aujourd'hui, la question des riches et pauvres, c'est déjà posé en 1990. Donc, à chaque fois, à chaque élection, c'est une question de savoir comment on fait pour sortir ces gens-là de la pauvreté, de l'extrême pauvreté même. Hein. C'est même pas des questions d'avoir un peu moins d'argent. C'est vraiment avoir rien du tout pour survivre. Donc aujourd'hui, la question qui se pose, par exemple, au Brésil, qui a été, comme tu le disais bien, dans un débat important en Amérique latine, c'est pas nouveau. C'est pas nouveau dans d'autres pays. Parce que...
Mais la question s'est posée en débat dans le reste du pays. Et pour la première fois, la question n'était pas en débat. Elle était dans la logique des électeurs eux-mêmes. Je pense que c'est cela l'élément un peu nouveau.
Oui, parce qu'elle se rend compte, tu sais, que tous les cycles, en fait, c'est tout est lent, tout Il faut prendre du recul toujours pour analyser les choses. Et c'est ça ce qui s'est passé en fait. Aujourd'hui, les gens, ils sont plus conscients effectivement de que tous ces systèmes qui ont été imposés pendant des années a causé des dégâts considérables de la société et qu'aujourd'hui, il faut les changer. Et les gens, ils se rendent compte aussi...
Entre autres avec des femmes présidentes, exactement, parce que vous citez le Chili, vous citez l'Argentine, justement,
même,
à des femmes présidentes.
Michelle Bachelet, en 2006, quand il a accédé au pouvoir pour la première fois, c'est elle, la première fois... Présidente socialiste qui a commencé à changer la donne, c'est-à-dire à donner des allocations aux femmes, à donner le
ça avait été commencé avant au Brésil par Lula qui justement a créé une politique keynésienne d'allocations.
Ce n'est pas suffisant, voilà, parce
c'est ça
que
qui a fait
la brèche,
millions de
la
gens.
Distance entre les plus riches et les plus pauvres, en fait, par exemple, le Chili, juste un chiffre, c'est 17 fois plus. Donc le plus riche gagne 17 fois de plus que les plus pauvres.
C'était pareil au Brésil, mais là il y a une vraie politique de redistribution des revenus, il y a une vraie politique de d'octroi de subventions qui fait que conditionné à l'envoi des enfants à l'école qui a tiré en 8 ans 43 millions de gens de l'extrême pauvreté vers la classe moyenne.
Veijou Narava nous a rejoint dans le studio.
Bonjour
Veijou,
oui, je m'excuse envers les auditeurs de mon retard.
Mais pourquoi cela?
Mais
on n'est pas filmé,
je me suis fait voler mon portefeuille et mon téléphone.
Ah, l'insécurité en France.
Et alors voilà. j'étais
à la rage.
Oui, à la rage, complètement désemparée. Je ne pouvais même pas vous prévenir que j'allais
vous
être
êtes toute excusée,
je suis vraiment désolée.
Et je tiens à dire à nos auditeurs qui ne nous suivraient pas sur Facebook que vous êtes notre première tchatcheuse décorée de la Légion d'honneur et qu'on est effectivement très très honorée. Mais je vois que vous ne portez pas le petit ruban rouge. Est-ce qu'on est une femme différente avec la Légion d'honneur
aussi d'afficher ce genre de choses.
Après 4 ans d'exercice du pouvoir, revenons à Dilma Rousseff. Est-ce qu'une femme est un président comme un autre finalement?
Non.
Ah,
je suis catégorique. Non. Je pense qu'il y a un exercice du pouvoir qui s'est fait différemment. Et là, j'ai...
Alors, si on reprend Bachelet au Chili, Cristina Kirchner en Argentine, au Costa Rica, Laura Chinchilla, qui est toujours là jusqu'en... qui était là jusqu'en mai 2014, qui a quitté ses fonctions.
Dans le cas chilien, par exemple, ce que je connais le mieux aussi un peu les cas argentins, c'est que effectivement les femmes, ils imposent une façon de exercer le pouvoir qui est différente. Il y a une écoute qui s'est fait qui est plus large. Il y a les antennes en fait des femmes qui s'étendent un peu en fait et ils font attention à des choses que un homme, je pense, il n'aurait pas fait attention.
Mais est-ce que pour autant les femmes ont fait des meilleures présidentes ou les meilleures gouvernantes? Dirigeante que les hommes. Bon. C'est pas évident.
Si on met dans la balance
dans mon pays,
et Dilma
oui.
Rousseff.
Je peux dire, honnêtement, de mon point de vue, dans mon pays, oui.
Au Chili, pour Michel Bachelet.
Je pense que oui.
Bah écoutez, moi je Anna voulais Navarro. Juste dire que Dilma, pour reprendre le fil de mon discours au début, Dilma a été réélue certes, le lendemain de sa réélection elle avait une proposition de démocratie participative avec des conseils populaires qui a été absolument laminée au Parlement par une coalition non pas de clivage politique traditionnel mais par une coalition de clivage social.
Et on verra maintenant pour le prochain mandat ce qu'elle va faire pour la lutte pauvres. Contre la corruption qu'elle n'a pas fait pour le premier mandat.
Indira Gandhi était une des pires premières ministres qu'on a eues.
On y revient, mesdames les tchatcheuses, 3 tchatcheuses autour de la table chez 7 milliards de voisins. I keep going to the river to pray, cause I need something that can wash out the pain. And I'm sleeping all these demons away. But your ghost, the ghost that you wakes me away. My friends had you figured out. Yeah, they're so what's inside of you. You tried hiding another you, but your evil was coming through. These guys sitting on the wall, well, they watch every move I make. White light living in the shade. Your cold heart makes my spirit shake. I had to go. Ella Henderson, Ghost, chez 7 milliards de voisins sur RFI. Veijoo Naravan, c'est le rendez-vous des chatcheuses aujourd'hui. Veijoo, vous êtes une journaliste indienne et vous revenez sur une sale histoire de djihad chez vous, en Inde. Love Jihad ou Romeo Jihad, si on voulait traduire.
Oui, c'est effectivement, ce sont des extrémistes hindous qui veulent semer de la haine entre la communauté musulmane et la communauté hindoue, parce que eux, ils rêvent d'avoir une nation hindouiste pour eux, les 180 millions de musulmans qui habitent le sous-continent indien doivent être les citoyens de seconde zone. Donc de toute manière que ça soit, ils cherchent à provoquer les haines entre les communautés. Et la dernière invention, c'est que les jeunes hommes musulmans se glisseraient parmi les jeunes femmes hindoues en leur faisant des yeux, en leur faisant tomber amoureux de ces jeunes hommes.
Pour les convertir.
Avec le but de convertir les jeunes hindous à l'islam. Et ça a pris une ampleur absolument épouvantable. Et on a vu qu'il y avait quand même 3 jeunes garçons qui ont été arrêtés, mis en prison, qui sont restés en prison pendant plusieurs mois, jusqu'au moment que la cour les a blanchis, parce qu'effectivement, il y avait une histoire d'amour entre une jeune hindoue et ce jeune musulman. Et puis c'est la fille.
Votre pays
elle-même
n'aime pas tellement, de toute façon, les amours extra-communautaires. Hein.
Exactement. Et la fille elle-même qui a déclaré que c'était elle qui était tombée amoureuse de ce garçon. Elle avait une relation avec lui. Et elle s'est repentie en quelque sorte. Mais maintenant, c'est cette jeune femme qui est complètement ostracisée aussi bien par sa communauté,
donc,
aussi bien
pour vous, tout ça est largement instrumentalisé politiquement.
Totalement, ouais. C'est très instrumentalisé. Évidemment,
on est parti de petits faits divers sur lesquels il est difficile finalement de savoir si réellement il y avait un complot d'instrumentaliser ces filles.
Non, il y a un complot parce que, par exemple, quand vous prenez des fêtes hindoues, il y a une fête hindoue dans l'état de Gujarat qui est l'état de notre premier ministre hyper-national qui vient d'être élu. Et là, il y a des danses où les jeunes garçons et les jeunes filles dansent ensemble. Et on dit toujours, attention, ce sont ces jeunes musulmans qui vont se glisser dans ces danses pour essayer de séduire ces jeunes filles. Voilà.
Donc, nouvelle manière de souffler sur les braises de l'islamophobie
absolument,
en Inde. Paola Martinez, vous souhaitez revenir, il nous reste quelques temps avant de lancer le flash, sur la sinistre disparition des étudiants mexicains. Alors, c'est pas une nouveauté, la violence au Mexique,
non,
dans certains états.
Hein. Malheureusement, non.
Néanmoins, là, aujourd'hui, il y a un émoi qui est particulier.
Oui, et surtout, moi, je considère qu'à la veille de la fête des morts, c'est une des fêtes les plus belles qu'on peut dire qu'il y a le Mexique, en fait. Et on peut compter encore des sinistres découvertes au Mexique, dans un état particulier. Et 43 jeunes disparus depuis septembre. On ne sait pas ce qui se passe, on ne sait pas ce qui s'est passé. La seule chose, les seuls constats.
Disparus et on disparu, dit probablement assassinés
probablement
aujourd'hui, puisque des policiers ont avoué avoir tiré sur des étudiants,
exactement,
etc. On va peut-être rappeler l'histoire brièvement.
Voilà, donc il y a un groupe d'étudiants, parce qu'il y a un groupe d'étudiants qui vont dans cette région manifester pour leur droit d'éducation, pour changer le système d'éducation.
Futurs instituteurs.
Exactement, ils arrivent à la région des Iguala, c'est une petite ville, et là,
dans
ils sont
Guerrero,
fortement réprimés par la police. Et aussi prise en otage et disparue. Plus jamais on a entendu parler de ces jeunes étudiants. 43 personnes quand même. C'est un nombre important. Depuis, tout le mois s'est écoulé et les gens commencent à chercher qu'est-ce qui s'est passé avec ces gens-là. Le maire et sa femme directement impliqués dans ces cas et eux
et
avec
auraient,
des étreintes.
Qui auraient, on dit bien au conditionnel, donné l'ordre à la police
exactement,
de tirer
de réprimer
sur ces étudiants.
Et les brûler vifs même. Donc c'est une histoire assez macabre. Et en même temps, et ce qui est terrible dans cette histoire, c'est qu'effectivement c'est l'État qui est complice en fait. C'est ça qui est terrible. Donc c'est une tradition presque, on dirait, mauvaise tradition.
Des cartels de la drogue. On y reviendra tout à l'heure. Vous restez avec nous les tchatcheuses, hein. Chez vous, les voisines journalistes, vous pouvez bien sûr réagir sur les réseaux sociaux ou nous appeler pour demander votre carte du club des tchatcheuses. Les portes ne sont jamais fermées. 33 1 84 22 71 71. Retour dans 3 minutes. Restez avec nous.
7 milliards de voisins, on est ensemble.
Bienvenue si vous nous rejoignez, 7 milliards de voisins et de voisines. Rendez-vous des tchatcheuses. Aujourd'hui, trois femmes journalistes de trois continents viennent souffler le chaud et le froid avec leurs commentaires acides ou pas d'ailleurs. Dans l'émission versant Europe, Ana Navarro Pedro, versant Latinos, Paola Martinez, versant Asie, l'Indienne Veiju Naravan. Soyez les bienvenus, mesdames, pour cette deuxième partie de l'émission 7 milliards de voisins. Ana Navarro Pedro, vous nous l'aviez bien caché derrière vos lunettes d'intellectuel, mais en fait, vous avez récemment gagné au loto, vous avez réalisé votre rêve, acheté un sac bling bling Spice Girls, signé Victoria Beckham. Mais quelle cachotière!
Et oui, d'ailleurs, vous le voyez, là par terre, mon petit sac à 30 balles. Ben oui, j'étais assez surprise de voir que au Royaume-Uni, Victoria Beckham a été élue l'entrepreneur de l'année. Moi, je pensais, j'avais vu des choses comme ça en passant. J'avais vu que peut-être ce n'était pas la vraie femme d'affaires derrière son succès de sa marque de mode, que c'était pas elle qui dessinait, c'était pas elle qui gérait. Mmh. Et ben non, il paraît que cette fille qui a commencé en chantant, qui n'a jamais eu l'air très très intelligente, etc., qui a commencé comme justement qui a épousé un accessoire de mode sur les traits de David Beckham. Son footballeur de mari, eh bien, cette fille cache un vrai cerveau, une vraie capacité d'entreprendre, de gagner de l'argent. Et puis, grâce à son nom, un nom quand même, elle a fait toute seule, sur les réseaux sociaux, sur dans le monde de la mode. Et eh bien, elle pèse personnellement plus de 200 millions de livres, comme fortune personnelle.
Et elle vend des sacs à combien?
Et elle vend des
28 800 euros, c'est ça?
À 18 000 livres au moins, c'est ça. Voilà. Donc, on y arrive.
Ça fait plus d'un SMIC français annuel brut.
Oui, quand même, oui, beaucoup plus que ça. Oui, c'est absolument ahurissant, mais ça marche. Et puis, pourquoi pas si elle trouve des gens pour acheter ces trucs-là.
Les tchatcheuses en face, on s'en voit.
Mais il ne faut pas balayer Victoria Beckham comme
non.
ça.
Non,
parce
non,
que
on peut
ce
pas.
N'est pas une fille ordinaire. Et la manière dans laquelle tu l'as décrit, cette petite fille.
C'est comme
fille
je la percevais, comme beaucoup de gens
oui,
la perçoivent.
Oui, non, mais étudier son background. Ouais. Il faut savoir d'où elle vient. C'est pas du tout une fille de la classe moyenne ou pauvre ou quoi que ce soit. Un des noms qu'on lui donne, c'est Poche. Mmh. Et c'est Poche parce qu'elle vient d'une famille extraordinairement riche. C'est quelqu'un qui est allé à l'école dans les Rolls-Royce. Mmh. Donc c'est quelqu'un qui
a l'habitude...
Oui, mais ça ne
veut pas dire que tu as la capacité de faire
aussi. Non, mais c'est quelqu'un qui connaît la mode, qui a l'habitude de côtoyer les grands
les milieux,
et les riches et les milieux. Donc qui se
trouve... Veijou, vous la défendez, vous dites oui, elle vaut son prix d'entrepreneur de l'année en Grande-Bretagne.
Je ne sais pas si elle vaut ce prix ou pas, mais c'est pas du tout étrange
en tout cas,
qu'elle
crédible.
Soit lancée dans la mode, qu'elle a eu ce type de succès, parce que vraiment la société de Jet Set, c'est un tout petit, une toute petite élite où tout le monde se connaît, et c'est comme ça que les réseaux se créent, donc c'est
et
absolument
Paola,
pas surprenant.
Et Paola, qu'est-ce qu'elle dit, la journaliste chilienne?
Elle arrive à vendre autant.
Elle s'en fiche.
Je m'en fiche. Excusez-moi l'expression, mais oui, je m'en fiche. Je suis bien contente pour
plutôt,
redistribuer son argent.
Je ferais plus d'attention que de dire ce sont que des footballeurs. Quand même, Beckham a été un extraordinaire footballeur.
C'est vrai.
Oui.
Cela dit, c'est
il
pas la seule.
Il faut reconnaître les talents quand ils sont là.
Mais voilà, c'est très intéressant ce que tu dis là, parce que justement, on a l'impression que ce sont des gens qui émergent du rien et qui peuvent ensuite avoir un grand succès. Et évidemment, non. Il y a du travail derrière. Comme tu dis, il y a des réseaux, il y a une naissance. Donc, on est à nouveau dans le clivage social dont on parlait depuis le début.
Je ne conteste pas.
Comment faire de la politique avec un sac à 22 800 euros? Ouais. Eh bien, elles sont très fortes, les tchatcheuses. Veiju Naravan. Elle est aussi jolie que Victoria Beckham. Vous voulez nous parler d'une sprinteuse indienne que vous avez décidé de défendre, Dyuti Chand, interdite de compétition parce qu'elle a un taux de testostérone trop élevé.
Oui, et c'est pas le premier cas qu'on a vu des femmes. Alors, souvent, je trouve que c'est absolument discriminatoire contre les athlètes féminins parce que nous, les femmes, tous, on a un taux de testostérone dans notre corps. Peut-être vous avez plus que moi, peut-être moi j'ai plus qu'Anna, je sais pas. Mais il y a des soi-disant normes de testostérone dans le corps de chaque femme qui vous classent comme féminine. Et il ne faut pas dépasser ces taux de testostérone, sauf que dans certaines athlètes, et on a vu ça aussi avec une athlète sud-africaine qui a été disqualifiée.
Caster Semenya, oui, championne du monde 800 mètres en 2009, qui a été privée de compétition à l'époque et puis réautorisée à courir.
Absolument.
Donc là, il faut quand même bien préciser pour les voisins et les voisines qui nous écoutent, hein, on n'est pas dans un cas de dopage pour cette sprinteuse indienne. Elle n'a rien pris, elle sécrète naturellement, on appelle ça hyperandrogène, hein, c'est ça?
Exactement. Exactement. Et étant donné que c'est un phénomène naturel, c'est son corps qui le fabrique, c'est pas quelque chose d'artificiel qu'elle ingère, les gens sont en train de se demander pourquoi est-ce qu'elle est punie, pourquoi elle est interdite.
Vous dites c'est injuste, vous?
Moi, je trouve que c'est totalement injuste.
L'Association internationale des fédérations d'athlétisme dit oui, mais il faut maintenir l'égalité de la compétition et donc ces tests sont légitimes.
Oui, mais il y a certains coureurs ou certains cyclistes qui sont naturellement plus forts que d'autres, ils gagnent parce que oui, il n'y a pas ce problème. Ils ont le physique du sport, donc ils gagnent plus facilement, ils ont plus de stamina.
Donc ça tombe sur les femmes comme d'habitude.
Exactement.
C'est ça,
exactement. Et pour quelles raisons on doit être considérée féminine? Parce qu'on a moins qu'un certain taux de testostérone.
Ouais. Alors, il paraît que les journalistes dans la presse indienne appellent les parents et disent « Mais alors, votre fille, est-ce qu'elle a des règles? Est-ce qu'elle est normale? Est-ce que ceci?
Oui,
est-ce que cela? »
C'est absolument scandaleux, horrible et absolument
véritable
dégoûtant.
Véritable humiliation.
Et cette fille a quand même eu le courage de dire « Je suis ce que je suis. Alors, je suis
en
d'à
photo,
l'aise
en tout cas,
avec
en
mon
photo, corps. » Elle ressemble à une vraie fille. Hein, y a
oui,
pas de doute.
C'est une vraie fille. Elle dit « Je ne vais pas changer du tout. Je ne vais pas prendre des médicaments pour baisser mon truc.
Ouais, »
si comme
on
c'est
le lui
ça.
A suggéré, pour exactement. Qu'elle puisse à nouveau courir. Ceci dit, pour l'instant, il y a une contestation possible
mais
au niveau international. Elle fait appel. Hein.
Oui, mais la société indienne, il y a ce côté extraordinairement malsain. Chaque fois qu'on s'attouche de la sexualité féminine, à ce moment, est-ce qu'elle a du poil sur la poitrine? Est-ce qu'elle est comme si? Mais c'est absolument horrible ce qui se passe.
Ça reste pour le moment une grande sportive.
Oui, oui.
Et donc vous lui souhaitez qu'elle puisse courir de nouveau?
Tout à fait.
Paola Martinez, un sujet vous tient à cœur, c'est la défense des droits de l'homme pour les peuples indiens. D'ailleurs, vous nous en parlez régulièrement, mais là, c'est vrai qu'il se passe quelque chose qui n'était jamais arrivé en Amérique latine.
Exactement. Il y a deux choses. Je voulais rebondir sur deux phénomènes importants qui sont passés ces derniers mois, d'ailleurs. La première, c'est un combat incroyable qui mène les Indiens d'Équateur contre Chevron. Vous connaissez Chevron, c'est la deuxième...
Chevron, oui.
Les géants pétroliers des États-Unis,
le
deuxième.
Américain.
Exactement. Et qu'est-ce qui s'est passé? Et il a été porté, enfin, les Indiens portent plainte contre Chevron.
Chevron.
Chevron, pardon.
Enfin,
Chevron.
Chez nous, en France, on le prononce à l'américaine.
J'ai du mal avec ces mots. Excusez-moi. Devant la Cour pénale internationale de La Haye, effectivement, pour des faits avérés entre 1960 et 1990. Qu'est-ce qui s'est passé? Pendant ces années-là, à l'époque, il y avait Texaco qui était dans la région et ils sont versés des tonnes et des millions de déchets toxiques sur les rivières, sur les canaux, les marais de la région. Ils ont contaminé tout l'eau de ces pauvres gens. Et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a 30 000 Indiens qui ont été contaminés avec des maladies, des cancers, des leucémies, etc. Donc, c'est une énorme bataille judiciaire qui a commencé en 1993 et qu'aujourd'hui, ce n'est pas encore fini. Parce que Chevron ne veut pas payer l'amende qui a été imposée par la justice.
Ça nous rappelle un peu d'autres catastrophes environnementales, type Bhopal en Inde.
Et ce qui est très fort dans cette histoire, c'est qu'un petit peuple de l'Amazonie équatorienne, avec effectivement l'aval du gouvernement de Rafael Correa, s'aimait en fait d'une lutte de David et Goliath, parce que effectivement, cette Chevron, c'est une énorme boîte, énorme, qui veut pas payer son amende, et surtout, ce qui est plus dangereux dans cette histoire, ne veut pas aussi assumer sa responsabilité environnementale et vis-à-vis de ces peuples-là.
Donc ça n'avance pas assez vite sur ce plan-là, néanmoins, l'Équateur, ça y est, a fait des excuses
officielles. Dès là, notre chapeau entre guillemets, mais aussi une histoire pénible des abus de pouvoir de la part de l'État équatorien. L'État équatorien demande des excuses publiques, il fait son mea culpa aussi auprès d'un autre peuple indien qui s'appelle les Sarayaku, et dans lequel, pareil, ils ont fait des exploitations pétrolières et des forages sans demander la permission à ces peuples-là. Normalement, les droits de l'homme et les doivent effectivement demander la permission pour faire ces explorations pétrolières. Ils ne l'ont pas fait. Quelles sont les conséquences? Ils ont laissé encore une fois aux années 90. C'est à peu près la même période, hein. Donc, il faut savoir qui était au pouvoir à l'époque parce qu'il y a eu beaucoup, beaucoup des histoires sombres en ce qui se concerne.
Donc, l'Équateur a été condamné, en fait, en 2012.
Elle a été condamnée
par la Cour
2012,
pénale interaméricaine des droits de l'homme, hein, pour violation des droits des peuples à être consultés, droit à la propriété indigène, puisque ce sont des terres qui ont été salies,
exactement,
finalement. Et, l'État équatorien a fait des excuses publiques. Certes, un peu plus tard que ce que demandait la Cour.
Beaucoup plus tard. Ah. Et surtout, ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est qu'encore une fois, c'est les indigènes qui ont fait un bras de fer, mais oui, pas possible avec l'État, pour obtenir gain de cause. L'État a indemnisé, a payé les millions qui ont été demandés,
oui,
mais...
Pas tant que ça, il me semble. Hein, plus d'un million d'euros versés, c'est pas grand-chose.
Ce n'est pas grand-chose. Et surtout, ils devaient absolument faire des demandes, des excuses publiques. Et ce qu'ils ont fait le 30 septembre dernier, à une grande pompe, parce qu'il fallait absolument laver un peu son image.
Mais finalement, on arrive à faire payer les États, mais faire payer les multinationales, c'est beaucoup plus difficile.
Et c'est ça qui est terrible dans l'histoire. Les multinationales partent tranquilles, avec ses croix des bras, ils font absolument rien.
C'est
et d'ailleurs,
en laissant leur poubelle sur place.
C'est ça qui est terrible. Là, aujourd'hui, les prix ont été payés l'amende, mais les déchets toxiques sont encore là, en train de pourrir la terre.
Justement, je me posais la question, Bhopal, par exemple, une catastrophe un peu similaire.
Oui. Qu'est-ce qui s'est passé après? 300 000
beaucoup plus médiatisé,
personnes qui sont toujours malades.
L'accident de l'usine chimique de Bhopal en Inde, il y a plusieurs années.
3 novembre 1984, où il y a eu...
Les victimes ont été indemnisées en partie.
Très, très peu, dérisoire. Parce qu'effectivement, le gouvernement indien a cédé à Dow Jones, qui était à l'époque Union Carbide. Et ce qu'ils ont fait, c'est de vendre la société à Dow Chemicals. Et donc, Dow Chemicals dit, c'était pas nous. C'était pas nous, donc on n'est pas responsable. On donne rien, on n'est pas responsable. C'était la filiale indienne uniquement qui était responsable, mais effectivement, la filiale indienne était totalement dépendante de la société parent qui était aux États-Unis.
Bon, il y a consensus autour de la table sur ces questions-là.
Oui, le problème, effectivement, il commence par le pouvoir politique qui est en affaiblissement généralisé depuis 30-40 ans. N'oublions pas tous les contrats des grandes entreprises multinationales avec des petits États africains ou asiatiques pour aller déverser chez eux des résidus toxiques qu'on ne peut pas, qui seraient trop chers à traiter dans leur pays d'origine.
Quand même imaginer
la Côte d'Ivoire en connaît quelque chose,
alors
par
on
exemple.
On peut imaginer nous, que quand même qu'avec ce type de condamnation, ça va être de plus en plus difficile pour les multinationales de se défausser quand même.
Non, je ne pense pas que c'est de plus en plus difficile. Il y a des sociétés minerais qui continuent à exploiter. On a eu dans l'État de Nord aux États-Unis avec 3M qui faisait le strip mine de uranium chez les gens dans le Dakota, on voit exactement la
mais
même chose.
Mais c'est quand même très largement médiatisé maintenant, les populations sont aidées par des ONG, etc. etc. On y reviendra, on arrive bientôt au terme de cette émission, les tchatcheuses. Anna Navarro, Pedro, je sais que vous aviez envie de nous parler de la Banque Centrale Européenne de l'Irlande, mais quand même, je voulais avoir votre point de vue sur cette affaire qui a suscité beaucoup d'émoi en France, beaucoup moins aux États-Unis. Apple, Facebook ont annoncé, donc deux grosses entreprises ont annoncé la semaine dernière qu'ils prendront en charge aux États-Unis les frais de congélation d'ovocytes de leurs employés femmes. Hein, c'est ce qui sert à faire des bébés qui le désireraient, c'est-à-dire pour différer une grossesse et pouvoir mener peut-être une carrière. Il faut savoir que dans ces entreprises, d'ailleurs, on a une population très masculine qui travaille dans l'informatique, dans les nouvelles technologies.
90%, j'avais dit.
Qu'est-ce que vous en pensez? Si on vous avait fait une proposition comme ça dans votre média.
Je me sens totalement insultée par ça.
Ah oui?
C'est-à-dire, alors ma fille, si tu veux grimper au sein de la société, retarde ta maternité.
Ouais.
Moi,
et
je
te paye
la
congélation.
Ça, mais alors, si vous voulez payer 20 000 $ parce que c'est ça qui coûte, pourquoi est-ce que vous n'établissez pas effectivement des garderies ou des crèches au sein de l'entreprise? Quel est le problème?
Voilà. Bah, il a tout dit.
Pourquoi nier quelque chose à la reproduction naturelle dans le temps? Parce que tout le monde sait qu'à partir de 35, 36, 37 ans, la grossesse
est moins fertile.
Et c'est plus dangereux.
Anna?
Oui, et puis c'est toujours, il y a ces derniers temps une attaque contre les femmes absolument généralisée sur tout point de vue. On fait peser sur les épaules des femmes les dysfonctionnements de nos sociétés. Et dans ce cas-là, si c'est l'entreprise qui paye la congélation des ovocytes, quelles sont les conditions pour pouvoir y recourir ensuite? Ce n'est pas écrit, ce n'est pas dit.
Vous restez avec nous, les tchatcheuses. Rencontre avec une ouvrière cambodgienne du textile, des femmes qui ont d'ailleurs rarement la parole. Et cette question en filigrane, que doivent faire les consommateurs qui achètent des jeans produits dans des conditions peu humaines? Juste après Taylor Swift. Taylor Swift chez 7 milliards de voisins, on est en compagnie des tchatcheuses. Et vous vous souvenez peut-être les filles du Rana Plaza. Oui, forcément, cet immeuble qui s'est effondré au Bangladesh en 2013. 1138 ouvriers, ouvrières du textile qui sont morts. Ils travaillaient pour des grandes marques occidentales. Et après le drame, 150 entreprises internationales ont signé un accord sur la sécurité des usines textiles au Bangladesh. Mais au Bangladesh, en Chine, au Cambodge, les conditions de travail sont toujours peu dignes. Charlie Dupiau, notre reporter, a rencontré il y a quelques jours une travailleuse du textile cambodgienne invitée à Paris par le collectif Éthique sur l'étiquette, collectif qui lutte contre les pratiques des multinationales du textile et qui demande un salaire vital pour les travailleurs.
Je m'appelle Chanthon, je suis une ouvrière cambodgienne et aussi je suis responsable du syndicat dans l'usine. Je couds toutes sortes de pantalons pour la marque Zara. Le travail, c'est 7 heures jusqu'à 11 heures. On a une heure de pause de repas. Ensuite, on reprend de midi jusqu'à 20 heures. Et on nous demande de faire des heures supplémentaires. Je travaille 6 jours par semaine. Le dimanche, nous travaillons de temps en temps. Il y a une loi de travail au Cambodge. Nous devons travailler 8 heures par jour, 40 heures par semaine. Mais cette loi n'est jamais appliquée. Nous travaillons toujours plus que cela, 12 heures par jour.
Est-ce que vous pouvez nous raconter une journée dans l'usine pour qu'on ait une idée un petit peu de ce qui se passe dans ces usines qui sont lointaines mais où finalement sont produits les pantalons qu'on a en France et puis ailleurs à l'étranger?
Dans l'usine, il y a 943 ouvriers. Il fait très chaud, c'est très bruyant, il y a de très mauvaises odeurs, il n'y a que 22 toilettes. Et en général, à partir de 2 heures l'après-midi, il y a une coupure d'eau tout le temps. Donc, quand il y a une coupure d'eau, les gens continuent à aller aux toilettes. Nous avons le droit de boire, mais on n'a pas le droit d'aller souvent aux toilettes. Par exemple, si on va 4 ou 5 fois, là, on aura des problèmes. Ils nous insultent, ils nous disent, si vous arrêtez tout le temps, comment on peut avancer à cause de vous, puisqu'on travaille à la chaîne. Ma spécialité, c'est coudre les braguettes. Je fais 1500 braguettes de pantalons par jour.
Qu'est-ce qui vous pèse le plus, vous, dans vos conditions de travail ?
Le poids le plus lourd pour moi, ce sont des heures supplémentaires qui dépassent ma capacité pour salaire vraiment très faible. 30 centimes dollars l'heure supplémentaire.
Au total, par mois, combien vous êtes payé ?
100 dollars par mois. Avec les heures supplémentaires, je peux obtenir 145 ou 150 dollars.
100 dollars par mois, c'est le salaire minimum au Cambodge. Comment vous faites pour vivre avec ces 100 dollars ?
Avec ce salaire, je peux vivre, mais je vis vraiment dans la misère. Je ne peux pas louer un logement moi-même. Nous vivons en communauté dans une même pièce. Une chambre, la mienne par exemple, il y a 9 personnes. Dans mes dépenses, je dois subvenir aux besoins de ma famille, aider ma mère qui est très âgée.
Il y a eu tout un mouvement de contestation dans plusieurs pays asiatiques avec des manifestations au Bangladesh après l'effondrement du Rana Plaza qui avait coûté la vie à plus de 1000 personnes. Et puis il y a aussi des manifestations au Cambodge pour un salaire vital, c'est-à-dire un salaire décent qui puisse permettre d'assurer la vie de tout travailleur dans le textile, sachant que votre usine produit des vêtements pour des multinationales qui ont donc des sous-traitances en cascade. Pour vous, comment est-ce qu'on pourrait résoudre le problème ?
Des syndicats au Cambodge, comme le collectif éthique sur l'étiquette et les syndicats internationaux dans le monde, nous travaillons ensemble pour que les ouvriers puissent obtenir un salaire vital qui est de 177 dollars le mois, 135 euros. Les patrons nous répètent tous les jours que ce n'est pas eux qui fixent ce salaire. Quand on dit alors les multinationales, faites quelque chose, ils disent non, c'est à cause des patrons sur place, ce sont eux qui décident.
Oui, mais alors du coup, comment faire ? C'est ça la question.
Je porte mon espoir sur les consommateurs européens de soutenir notre campagne pour obtenir le salaire 177 dollars. Ils peuvent ne pas continuer à acheter ces vêtements. Et en faisant tout cela, tous ces multinationales vont arrêter de nous mal payer comme ils ont fait jusqu'ici. Et je crois beaucoup que les consommateurs occidentaux ne vont pas supporter de porter des vêtements qui remplissent de sang des ouvriers cambodgiens.
Voilà, propos recueillis par Charlie Dupio, cette ouvrière cambodgienne a été invitée par l'ONG éthique, le collectif éthique sur l'étiquette. Comment vous réagissez là? Je vous ai vu beaucoup réagir pendant le témoignage de cette ouvrière cambodgienne qui appelle à votre responsabilité, à vous, mesdames, en tant que consommatrice, vous dites quoi?
Mais je suis absolument d'accord que ici, en Europe, par exemple, étant donné la situation économique qui est terriblement fragile, les gens achètent constamment aussi pour se doper un peu psychologiquement. Et on veut acheter, mais on va acheter les choses bas de gamme et pas chères parce qu'on n'a pas les moyens de payer les choses plus chères. Ouais. Donc les deux, ça, alors, il y a une corrélation.
C'est à double tranchant, parce que le collectif éthique sur l'étiquette ne dit pas qu'il faut boycotter ces marques, parce qu'un boycott, ça pénaliserait aussi l'emploi des ouvrières du textile. Alors je ne sais pas, quelle est Paola, vous ?
Moi, je dis que la colère qui a suscité justement l'effondrement de Rana Plaza et les autres effets qu'on a connus, ça suffit pas dans ces cas-là. Le problème, c'est qu'effectivement, il y a une conscience, disons, plus collective aujourd'hui. On sait dans les conditions, parce qu'on ne cesse pas de dire dans la presse, un peu partout, les gens qui sont plus curieux aussi de savoir, parce qu'il y a des gens qui ferment les yeux, qui font absolument rien, mais on ne peut pas dire qu'on ne sait pas. Ça, c'est une chose. Les problèmes aussi, ça passe aussi par les pays dans lesquels ces entreprises travaillent, parce que c'est eux qui appliquent pas la loi.
C'est à l'État cambodgien de faire appliquer la loi des 40.
Parce que les lois s'appliquent. Évidemment, il y a une conscience collective qui doit se faire plus large, c'est-à-dire nous aussi, en tant que consommateurs, faire attention et ne pas effectivement faire passer le message aux autres. Mais aussi, il faut savoir qu'il y a une conscience qui doit aussi passer par une volonté politique. Et la politique aussi passe par ces pays-là qu'il faut qu'ils appliquent la loi.
C'est la seule solution, en effet. Mais la tendance est terrible, parce que si le Cambodge devient le Cambodge est déjà un choix après la Chine.
Les usines c'est plient bagages et
s'installent. C'est le Cambodge, elle devient trop chère, ils vont partir comme maintenant ils sont en train de partir en Éthiopie. La Birmanie, ça devient le nouvel Eldorado. On sait qu'il y a eu du travail d'esclaves en Birmanie, donc notamment pour des compagnies de pétrolières. Mais ça devient le nouvel Eldorado. Et puis, n'oublions pas l'Europe. En ce moment, en Europe, des pays comme l'Espagne, le Portugal, la Grèce ont été mis à genoux par une crise qui a été aussi en partie provoquée et qui était avant tout financière. Eh bien, dans ces pays-là, on a changé le modèle social et le modèle politique et économique. Eh bien, en ce moment, ces pays, ça repart un petit peu et ça fait youpi, on repart, il y a de la croissance parce qu'il y a des exportations. Ces exportations,
mais
c'est quoi
prix?
L'habillement, le textile, la chaussure essentiellement. Et pourquoi? Parce que les prix sont extrêmement bas et ça devient compétitif de faire.
Pas dans les mêmes conditions quand même.
Pas dans les mêmes conditions, mais attendez. Le leitmotiv maintenant, c'est les moins chers des pays chers.
Bon, mais alors vous dites
et
quoi?
Attendez, et vous ne savez pas, vous allez voir dans
faut
ces pays ce que
parler.
C'est de recevoir à la fin du mois 100 euros parce que le patron va vous dire, oh, je ne peux pas te payer 400.
Mais aussi, et une chose à signaler,
il
c'est
reste quelques secondes, Véjou.
Oui, malgré les accords signés, rien n'a changé à Rana Plaza.
On continue
et les sociétés multinationales.
Et on se déplace.
Prétend de changer les choses.
Merci à vous, mesdames. Vous revenez quand vous voulez pour vos coups de cœur et vos coups de gueule. Anna Navarro, Pedro Véjou Naravan, Paola Martinez. Merci à toute l'équipe. Cécile Lavolo, Romain Dubrac, Jonas Malé-Solars. Pour toutes vos réactions, évidemment, vous pouvez nous écrire à 7milliards@rfi.fr et réécouter en libre service toutes les émissions en podcast sur le site rfi.fr. Demain, 7 milliards de voisins, sujet éducation comme chaque vendredi. Comment enseigner à des classes surchargées? Les instituteurs en Afrique savent de quoi nous parlons. 80, 100, voire parfois 120 élèves. Un enseignant ivoirien vient de publier un guide pratique. Et vous, les voisins profs, comment vous faites? Peut-on instruire les enfants dans des classes trop nombreuses? Vous nous appelez dès maintenant. À demain.